Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris.
RFI Midi.
Dernière partie de RFI Midi, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure pour parler notamment de la visite d'Anthony Blinken en Haïti. Le secrétaire d'État américain fait une escale dans le pays pour parler de la transition politique, mais aussi de la mission multinationale dont le déploiement sous la houlette du Kenya est assez laborieux. Cette mission pourrait-elle se transformer en mission de l'ONU? Peut-être, selon la presse, c'est une option, nous dit Washington. Nous appellerons dans quelques instants notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Reportage aussi à suivre dans le Michigan aux États-Unis à 2 mois pile de la présidentielle. Le Michigan, c'est l'un des fameux états clés où se trouvent beaucoup d'électeurs indécis qui ont la possibilité de faire pencher la balance pour l'un ou l'autre candidat. Notre envoyé spécial a rencontré plusieurs d'entre eux. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de la Guyane tout à l'heure. Clap de fin pour la fusée Vega qui a rempli avec succès hier soir son ultime mission.
Au centre spatial guyanais de Kourou, place maintenant à la nouvelle génération des Vega C. Nous entendrons tout à l'heure le PDG d'Ariane Espace.
A tout à l'heure.
RFI Midi.
Et d'abord le journal. Bonjour Clotilde Dumay.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Après avoir nommé le plus jeune Premier ministre de la Ve République, Emmanuel Macron choisit un homme de 73 ans pour former un nouveau gouvernement.
Michel Barnier, un nom qui revenait avec insistance ces dernières heures après des jours de consultation. C'est donc lui qui a été choisi en France par Emmanuel Macron pour constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, indique l'Élysée dans un communiqué. Charlotte Urien-Thomaca, vous êtes en direct de Matignon. La France attendait un Premier ministre depuis 2 mois. On attend désormais la passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Ça devrait être à 18h heure de Paris, hein, Charlotte.
Oui, Michel Barnier qui devrait arriver à l'hôtel de Matignon donc peu avant 18h pour une passation avec le Premier ministre sortant Gabriel Attal. Une passation dans la cour de l'hôtel de Matignon prévue sous la pluie puisque la météo est très mauvaise à Paris ce jeudi. Un entretien est prévu entre les deux hommes avant cette passation et le Premier ministre sortant Gabriel Attal a déjà publié une vidéo de remerciement sur ses réseaux sociaux. Remerciement à ses équipes mais aussi aux Français. Gabriel Attal qui retourne donc à l'Assemblée puisqu'il est à la tête du groupe parlementaire Ensemble pour la République. Cet après-midi donc deux discours prévus, celui de l'ancien et celui du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Ensuite, pour commencer, Michel Barnier doit constituer donc son équipe rapprochée. Tout d'abord son binôme, son chef de cabinet qui gère l'agenda du Premier ministre, puis son directeur de cabinet. Et enfin, stabiliser son équipe de communication. Après cela, les premiers déplacements devraient être annoncés. Michel Barnier pourra aussi commencer à travailler sur la constitution de son gouvernement. Une tâche qui s'annonce déjà très difficile.
Charlotte Urien-Thomaca en direct de Matignon à Paris. Michel Barnier qui est effectivement l'ancien négociateur du Brexit va plus que jamais devoir manier l'art du compromis puisque sa nomination fait déjà bondir la gauche. Les élections législatives ont été volées aux Français, affirme l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Le pays entre dans une crise de régime pour le socialiste Olivier Faure. L'extrême droite, en revanche, dit attendre le discours de politique générale de Michel Barnier avant de décider d'une éventuelle censure. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure sur RFI le député du Rassemblement national Philippe Ballard.
On va attendre, on va juger sur pièce. Il est évident qu'il n'y aura pas une censure préalable, comme ça aurait été le cas pour Mme Castex, pour M. Cazeneuve ou pour M. Xavier Bertrand. On va écouter le discours de politique générale et puis ensuite il y aura des textes, à commencer par le budget. Ce n'est pas parce que nous ne censurerons pas a priori qu'ensuite on ne se réserve pas le droit de censurer si la politique menée par M. Barnier et son gouvernement va dans le mauvais sens. Marine Le Pen nous a toujours dit, dans vos votes à l'Assemblée, vous n'aurez qu'une seule boussole. Est-ce que le texte va dans la bonne direction pour la France et les Français? Si c'est le cas, on vote le texte. Sinon, eh bien, c'est non. Tout simplement, vous savez, il faut rappeler juste ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont dit à Emmanuel Macron lorsqu'ils l'ont rencontré. Il y a 3 conditions vraiment impératives. C'est il faut respecter les 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement National. Il va falloir que le futur Premier ministre et son gouvernement s'attellent à la lutte pour le pouvoir d'achat, contre la sécurité et contre l'immigration. Et puis qu'ils s'attellent dans les mois qui viennent à travailler parier sur la proportionnelle.
Et puis pas de censure automatique non plus du côté du camp macroniste. Nous serons nombreux à l'aider, a même écrit sur X Édouard Philippe, le chef du parti Horizon, candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit probablement d'un attentat, selon le ministre régional de l'Intérieur de Bavière. Un homme a ouvert le feu près du consulat général d'Israël à Munich, en Allemagne. Il s'agit d'un Autrichien âgé de 18 ans qui n'a pas fait de victime et qui a été abattu par la police. Le président israélien a exprimé son horreur après cet acte commis le jour de la commémoration de la prise d'otages d'athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de 1972 à Munich.
Aux États-Unis, le sort de l'un des fleurons de la sidérurgie s'invite dans la campagne présidentielle.
L'aciériste US Steel, en difficulté, doit être racheté par son concurrent japonais Nippon Steel, mais le projet est en pause et les deux candidats à la Maison Blanche promettent de l'enterrer, Nicolas Feldman, tout comme d'ailleurs le président Joe Biden.
Oui, cela fait plusieurs mois que la menace est brandie. D'après le Washington Post, le président américain pourrait très bientôt annuler le rachat de US Steel par son concurrent japonais. L'opération, chiffrée à 14 milliards de dollars, doit permettre de moderniser cette entreprise en difficulté et de préserver l'emploi. Mais le puissant syndicat de la métallurgie n'y croit pas et redoute même une casse sociale. Syndicat rejoint cette semaine par la candidate démocrate à l'élection présidentielle, Kamala Harris.
US Steel doit rester une entreprise américaine exploitée par des Américains. Et je soutiendrai toujours les travailleurs américains de la sidérurgie.
Son adversaire Donald Trump maintient lui la même position. Pour les deux candidats, le sort de ce fleuron américain de la sidérurgie est devenu un enjeu de campagne. US Steel, qui emploie près de 80 000 salariés, est implanté en Pennsylvanie, un état clé dans la course à la prochaine élection. Ce mercredi, la direction de US Steel, elle, de son côté, met en garde. Si ce projet de rachat venait à être enterré, le groupe devrait alors renoncer à ses investissements et menace d'un plan social.
Nicolas Feldman est à 2 mois pile de l'élection présidentielle. Kamala Harris vient de recevoir un soutien plutôt inattendu. Le président russe Vladimir Poutine affirme qu'il est du côté de la candidate démocrate. Il estime que le républicain Donald Trump a imposé plus de sanctions à la Russie qu'aucun autre président américain avant lui. Et puis en bref, Washington annonce avoir obtenu la libération de 135 détenus politiques au Nicaragua. Ils seront accueillis au Guatemala. La République démocratique du Congo vient de recevoir sa première livraison de vaccins contre le Mpox. Près de 100 000 doses ont été livrées à l'aéroport de Kinshasa pour aider le pays à faire face à l'épidémie. Une seconde livraison est prévue samedi. Le Mpox a tué plus de 650 personnes en RDC depuis le début de l'année. Plus de 19 000 cas ont été recensés.
Merci Clotilde Dumais. Clotilde Dumais, votre journal se poursuit avec cette information concernant la pollution de l'air à l'origine de plus de 4,5 millions de morts prématurées chaque année dans le monde.
Et c'est aussi un fléau pour l'environnement et l'économie. Dans son rapport annuel sur la pollution de l'air publié en amont de la Journée internationale de l'air pur le 7 septembre, l'OMM, l'Organisation mondiale de la météorologie, alerte notamment sur les conséquences de cette pollution sur l'agriculture. Explication de Jeanne Richard.
L'OMM s'est intéressée au taux de PM2.5 dans l'air, c'est-à-dire toutes les particules dont la taille est inférieure à 2,5 micromètres, que ce soit des résidus de la combustion de charbon ou de pétrole, des cendres microscopiques issues des feux de forêt ou des poussières du désert soufflées par le vent, parfois sur des milliers de kilomètres. Une pollution qui affecte la santé, c'est reconnu, mais aussi la croissance des cultures, car ces particules en suspension peuvent faire comme un voile dans le ciel, empêcher les rayons du soleil d'atteindre la surface des feuilles et faire baisser la température de l'air. Elle modifierait même la formation des nuages et donc le régime des pluies, selon le rapport. Enfin, lorsqu'elles finissent par se déposer sur les plantes, elles bouchent les minuscules orifices qui leur permettent de respirer et d'échanger la vapeur d'eau et le CO2 avec l'atmosphère. Au final, les particules fines peuvent réduire de 15% le rendement des cultures dans les zones très polluées et l'OMM liste une série de zones sensibles, les régions agricoles d'Afrique centrale, d'Asie du Sud-Est, de Chine, d'Inde et du Pakistan.
Les explications de Jeanne Richard. Et puis la coupe est pleine face à la polémique qui montait en France. Pernod Ricard renonce finalement à son partenariat avec le club de football du Paris Saint-Germain. Depuis l'annonce de ce partenariat, les supporters marseillais menaçaient de boycotter les produits du groupe de spiritueux. Dans un communiqué, Pernod Ricard affirme que l'histoire de la marque se confond depuis plus de 90 ans avec Marseille, qu'il a vu naître et que ce lien est plus plus fort que tout. Voilà, c'est à vous, Anne Cantner, pour la suite de RFI Midi.
Cette fois, ce journal est vraiment terminé. Clotilde Dumais, nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour l'actualité internationale. Nous, nous sommes ensemble pour 20 minutes encore pour parler de l'actualité du continent américain. On va reparler de la campagne électorale aux États-Unis et d'Haïti, où se rend aujourd'hui le secrétaire d'État américain.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Anthony Blinken fait étape dans la capitale haïtienne avant de se rendre en République dominicaine. Il doit rencontrer à Port-au-Prince plusieurs personnalités, comme l'a détaillé hier le porte-parole du département d'État. Matthew Miller, écoutez.
En Haïti, le secrétaire d'État va rencontrer le coordinateur du conseil de transition présidentiel Edgar Leblanc-Fils et le premier ministre Gary Conil pour discuter des étapes à venir dans la transition démocratique d'Haïti et du soutien américain au peuple haïtien à travers l'aide humanitaire et les efforts de stabilisation dirigés par les Haïtiens. Il rencontrera aussi la direction de la mission multinationale de soutien en mettant en avant le soutien américain pour rétablir la sécurité en Haïti et en soulignant aussi l'importance de promouvoir le respect des droits humains.
Le porte-parole du département d'État américain au sujet donc de cette visite d'Anthony Blinken qui est en route pour Port-au-Prince pour des discussions sur la situation politique donc, mais aussi humanitaire et sécuritaire. Nous sommes en direct pour en parler avec notre confrère Franz Duval. Bonjour.
Bonjour Anne.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Alors c'est le deuxième déplacement d'un responsable américain en un mois et demi. En juillet dernier, c'était l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui avait fait le déplacement, promis de Port-au-Prince une aide supplémentaire. À quoi elle sert cette nouvelle visite ?
À essayer de corriger ce qui ne marche pas, à la fois au niveau de la mission multinationale, mais aussi au niveau de la transition elle-même, parce qu'aujourd'hui Haïti est bloqué. Le Conseil présidentiel de transition ne fonctionne pas. 3 des membres sont sur la sellette. Il n'y a pas d'entente entre eux. On ne peut pas avoir une majorité pour faire passer les mesures importantes. Le premier ministre Gary Conil, ce matin, a menacé un de ses ministres de le sanctionner. Ça fait la une du Nouvelliste. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un vrai problème de cohabitation politique entre ceux qui sont venus de divers horizons et ce premier ministre qui doit faire marcher un gouvernement dont les ministres ne relèvent pas vraiment de lui.
Donc une situation politique qui semble toujours dans l'impasse malgré la nomination d'un conseil de transition. Et puis vous nous l'avez dit, Anthony Blinken a prévu de parler de la mission multinationale, une force qui peine à se mettre en place et il se dit que son format pourrait changer.
On va essayer de changer le format parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'hommes. Il y a seulement les Kenyans, les autres pays n'ont pas envoyé leurs troupes. On n'a pas assez de matériel. Le Kenya a parlé de possibilité de faire des missions aériennes et maritimes. Il n'y a ni bateau ni aéronef. Il n'y a pas assez d'argent non plus pour la mission. CNN a reporté dernièrement que certains Kenyans n'avaient pas encore été payés. Tout ça pour dire que la mission américaine supportée par les États-Unis beaucoup est embourbée dans des problèmes de moyens, tout simplement. Et M. Blinken, qui est à sa première visite en Haïti, va essayer de rassurer, mais surtout de chercher d'autres pistes de solutions.
Et donc, parmi ces pistes, il y aurait le fait que cette mission se transforme en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Comment est-ce que cette perspective est accueillie en Haïti ?
Pour le moment, les Haïtiens regardent tout ça avec tranquillité, parce qu'ils se disent que le défi sera de faire passer cette proposition au niveau du Conseil de sécurité. À chaque fois que le dossier haïtien est arrivé au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie ont eu des remarques, ont eu des positions qui entravent ce que veulent faire les États-Unis. Et c'est pourquoi toute cette affaire de mission a duré pendant très longtemps. Ça a pris plus d'une année pour que la mission soit mise sur pied. Et maintenant qu'on arrive à la fin de la mission, qu'il faut la renouveler ou la modifier, on doit retourner encore devant le Conseil de sécurité. Et les Haïtiens se disent, que vont dire les Chinois, que vont dire les Russes.
Renouvellement à la fin du mois. À la fin du mois aussi, l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc il sera certainement beaucoup question de cette mission. Tout ceci arrive dans un contexte qui est très difficile encore, avec un nouvel exemple du quotidien très éprouvant dans la capitale, France. C'est cette immense panne d'électricité.
Tout à fait. C'est la centrale hydroélectrique de Peligue, la principale capacité de production d'électricité en Haïti, qui a été envahie par des autorités des villes avoisinantes qui ont fait stopper la centrale. Ça a provoqué un blackout immense sur toute la région métropolitaine. Mais il faut dire que cela arrive à un moment où le pays est en état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire qui était dans quelques départements géographiques à l'arrivée de M. Kony, qu'on a élargi à d'autres départements géographiques il y a de cela un mois. Et hier, le gouvernement a sorti un arrêté pour décider que maintenant l'état d'urgence sécuritaire est sur tout le territoire. C'est pendant que l'état d'urgence sécuritaire est sur tout le territoire qu'on envahit la centrale hydroélectrique. En réalité, le gouvernement prend des décisions sur le papier, mais dans les faits, on ne peut absolument pas assurer le contrôle du territoire, encore moins celle de la population.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. On peut vous lire sur le site internet du journal lenouvelliste.com.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
Nous sommes à 2 mois exactement de la présidentielle aux États-Unis, 2 mois avant l'élection. Et évidemment, la campagne prend de plus en plus de place dans la presse. Que vous avez lu pour nous, Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On en profite pour rembobiner les dernières semaines de campagne avec l'arrivée tonitruante de Kamala Harris dans la course, qui a relancé le match, mais maintenant il faut transformer les
scènes. Ouais, tribune à lire dans le Los Angeles Times. En 2 mots, ça va être très serré. Devant elle, il y a de vrais obstacles. Difficulté numéro 1, faire le tri, parce que la candidate Kamala Harris n'est pas la vice-présidente Kamala Harris. Il faut qu'elle arrive à se distinguer du bilan Biden tout en faisant partie de son administration. C'est un gros morceau. Deuxième écueil, elle a déjà beaucoup changé, Kamala Harris, sur des sujets de fond. Elle était beaucoup plus progressiste il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a le costume d'une centriste prudente et le Los Angeles Times remarque que les électeurs vont forcément se demander à quel point on peut la croire, si elle est sincère. Elle a répondu sur CNN pour sa première interview depuis sa nomination que ses valeurs n'avaient pas bougé, ce qui ne veut pas dire grand-chose.
Et ce qui ne résiste pas à un examen précis de ses annonces.
Quand on creuse un peu, effectivement, c'est la reine de la volte-face sur l'énergie, par exemple, 2019. Elle s'oppose à la fracturation hydraulique et à l'exploration pétrolière offshore. Aujourd'hui, elle laisse passer tout ça. Sur la santé, c'était une partisane acharnée de Medicare for All, plus ou moins l'équivalent d'une sécurité sociale pour tous aux États-Unis. Son porte-parole de campagne fait savoir aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Sur l'immigration, elle soutient le projet de loi Biden, 650 millions de dollars pour construire un mur à la frontière du Mexique, alors que jusqu'ici, elle plaidait, à l'inverse, pour la dépénalisation des passages de frontières clandestins, etc., etc., etc. Beaucoup d'allers-retours. Et le Los Angeles Times nous dit que ce n'est pas si grave pour la plupart des votants qui ont déjà fait leur choix. Son problème, ce sont les indécis dans les états clés et la manière dont elle va expliquer ces revirements va être capitale, car ceux qui doutent encore vont devoir lui pardonner ses zigzags idéologiques, mais aussi les lacunes qui plombent son programme, en particulier sur le plan économique.
Et ils vont jouer un rôle essentiel, ces électeurs indécis, puisque pour l'instant, les sondages donnent les deux candidats au coude à coude. 47% pour Kamala Harris contre 45% des voix pour Donald Trump. C'est ce que dit une dernière enquête YouGov pour The Economist. Les fameux swing states vont donc jouer un rôle capital, ces états clés à même de faire pencher la balance pour l'un ou l'autre candidat, là où tout pourrait se jouer à quelques milliers de voix seulement. Selon le journal The Detroit News, les indécis seraient près de 5% dans le Michigan, par exemple. Et notre envoyée spéciale, Anne Verdaguer, a rencontré ses électeurs très convoités. Anne, ce que la presse évoque, ce que nous disait Vincent Souriau à l'époque, se confirme. L'arrivée dans la campagne de Kamala Harris n'a pas vraiment clarifié les choses pour eux, pour ces indécis.
Bien au contraire, cette arrivée tardive semble pallier une situation qui était devenue intenable pour les démocrates avec Joe Biden, mais Kamala Harris semble avoir été catapultée, si l'on peut dire, sans réel programme et étant aux affaires puisqu'elle est toujours vice-présidente. Cela pose un vrai problème à ses électeurs. Pourquoi n'a-t-elle pas déjà fait quelque chose pour le pays? Où était-elle ces 4 dernières années? Ce sont des phrases que l'on entend beaucoup de la part de ses électeurs indécis comme Wayne, âgé de 54 ans.
You think of it. He stepped down.
Quand vous y réfléchissez, elle est au pouvoir. Pourquoi n'agit-elle pas maintenant? Elle est aux commandes. Pourquoi doit-on attendre qu'elle soit présidente pour qu'elle commence à faire quelque chose et qu'elle rectifie les erreurs de Biden? Ça n'a aucun sens. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Donc je n'y crois plus. Mon père disait ceci. On nous enlève le choix de qui l'on va élire, car ceux qui sont candidats ne sont pas choisis par le peuple. C'est ainsi que fonctionne notre pays. La personne qui va devenir le prochain président des États-Unis, la classe moyenne n'en veut pas car elle sait qu'il ou elle ne fera rien pour elle.
Anne, vous vous êtes rendue devant l'université de Wayne à Détroit pour rencontrer l'électorat jeune. Dans l'État du Michigan, ils sont généralement très mobilisés politiquement.
Ce fut le cas lors de la dernière élection des midterms en 2022, mais ils semblent à présent déstabilisés, comme beaucoup d'électeurs, face à une candidate démocrate qui reste assez floue et un candidat républicain qui ne répond à aucune de leurs préoccupations. James a 20 ans et c'est la première année qu'il ira voter.
Oui, c'est vrai, je suis encore indécis et j'attends de voir ce que ces candidats vont mettre en avant et ce qu'ils ou elles souhaitent vraiment faire. Ils ont besoin de prendre position, car ils continueront toujours de dire les mêmes choses. Ces deux candidats ne sont pas les meilleurs choix que nous ayons. Ils ne sont pas à la hauteur de ce que cherchent, veulent les gens et de ce qui les préoccupe vraiment. Ils ne sont pas en phase.
Que pensez-vous du fait que Kamala Harris soit à présent au devant de la scène après que Joe Biden se soit retiré de la course? Est-ce que cela change quelque chose pour vous?
C'est vrai qu'étant une femme noire de surcroît, ce serait incroyable pour notre pays si elle était élue. Ce serait la première fois. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle porte la même idéologie et les mêmes idées que lui. Rien ne change. Au final, je pense qu'un candidat peut encore sortir du lot. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent évoluer entre eux.
En ligne de mire de ses électeurs, le débat du 10 septembre prochain entre Donald Trump et Kamala Harris, qui sera scruté par les indécis.
Anne Verdaguer, envoyée spéciale de RFI dans le Michigan, pour couvrir donc cette campagne américaine dans laquelle s'est invitée de nouveau hier la sempiternelle question des armes à feu après une nouvelle fusillade. Cela s'est passé dans un lycée de Géorgie. 4 personnes ont été tuées, plusieurs blessées. Donald Trump a réagi rapidement avec le ton qu'on lui connaît. Il a qualifié de monstre malade et détraqué l'homme qui a ouvert le feu, le jeune homme qui a ouvert le feu. Et Kamala Harris, elle, a appelé à mettre fin aux violences par arme à feu, le tout en marchant sur des œufs. Écoutez.
C'est une tragédie tout simplement insensée qui vient après tant de tragédies insensées. Et c'est tout simplement scandaleux tous les jours que dans notre pays, les États-Unis d'Amérique, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école en se demandant si oui ou non leur enfant rentrera vivant à la maison. C'est insensé. Nous devons arrêter ça. Et nous devons arrêter cette épidémie de violence armée dans notre pays une fois pour toutes. Cela n'a pas à se passer comme ça. C'est un faux choix de dire que soit vous êtes pour le deuxième amendement, soit vous voulez prendre les armes à tout le monde. Je suis pour le deuxième amendement et le droit de détenir des armes. Et je sais que nous avons besoin de lois raisonnables sur la sécurité des armes dans notre pays.
Kamala Harris, hier soir en campagne dans le New Hampshire. On va rester aux États-Unis avec vous, Vincent Souriau, pour une plongée dans les secrets d'une espionne chinoise.
Présumée innocente, cette espionne, mais on ne peut pas s'empêcher d'y croire. C'est CNN qui a sorti l'info hier, étoffée aujourd'hui par le New York Times, comment Linda Sun, ancienne cadre du cabinet de la gouverneure de New York, travaillait en sous-main pour la Chine. La justice américaine a un dossier sur elle, et c'est un dossier costaud. Comment elle s'est procuré des papiers à en tête, des formulaires vierges, qu'elle n'avait plus qu'à remplir pour faire circuler des officiers chinois sur le territoire américain, comment elle a fait barrage aux représentants de Taïwan, comment elle a fait son maximum pour minimiser le génocide des Ouïghours au Xinjiang et toucher pour tout cela, avec l'aide de son mari, des millions de dollars, des cadeaux, des emplois en Chine pour certains de ses cousins, acheter aussi une maison à plus de 3 millions de dollars dans l'État de New York, une autre à Hawaï, une Ferrari. L'acte d'accusation est accablant, mais Linda Sun et son mari plaident non coupable. Coupable à lire sur le site du New York Times.
RFI Midi.
À lire aussi dans la presse du continent, des informations sur la situation à Bogota. La capitale colombienne est toujours bloquée par la grève des camionneurs, Vincent.
4e jour de paralysie, on ne peut plus entrer dans Bogota. Tout simplement, manifestation un peu partout. 4 millions d'habitants touchés d'après la mairie. Le trafic ferroviaire est interrompu dans une demi-douzaine de gares. 270 tonnes d'ordures répandues sur les trottoirs. Tout ça à la suite d'une augmentation des prix du carburant. Le diesel a augmenté de 1900 pesos par gallon des Le gallon, c'est un bidon d'environ 4 litres et cette hausse a mis le feu aux poudres pour l'instant. Malgré les contre-propositions du gouvernement, les syndicats ne lâchent pas le morceau et le mouvement pourrait être reconduit pour une durée indéterminée.
Des protestations aussi au Mexique, un tollé provoqué par la réforme de la justice. Alors, son adoption ne fait pas vraiment de doute, mais ce projet du président sortant, censé lutter contre l'inefficacité et la corruption du système judiciaire, est très critiqué. Le personnel de justice s'oppose à la réforme, il est toujours très mobilisé. Ça fait fait plusieurs jours maintenant. Gwendolina Duval, les grèves, les protestations se multiplient, comme hier à Mexico, où des manifestants ont bloqué l'accès au Sénat.
Devant le grillage de la chambre haute du Parlement mexicain, ils sont quelques centaines réunis à l'improviste quelques heures après le vote de l'Assemblée. Des membres du personnel de justice en grève depuis deux semaines. Elvia Cordoba travaille dans une cour fédérale.
Nous espérons que la réforme ne passe pas et que les gens prennent conscience que cette loi ne concerne pas seulement les magistrats, mais tout le monde. Les juges ne peuvent pas s'improviser, encore moins être élus par un vote populaire.
La nomination des juges dans les urnes dès l'année prochaine est la mesure la plus critiquée de cette vaste réforme qui entend renverser le système mexicain de la justice. Une mesure dangereuse, selon l'avocate Claudia Hernandez.
S'il est désigné par des élections, évidemment qu'un juge ne sera pas indépendant. Il prendra ses décisions juridictionnelles en fonction des forces de pouvoir qui lui auront donné sa place. Nous craignons qu'il puisse y avoir des juges imposés par des cartels ou par de grandes entreprises. Nous demandons aux sénateurs qu'ils nous écoutent.
La réforme devrait être examinée par le Sénat la semaine prochaine. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
RFI Midi. L'actualité des Outre-mer à présent, et on vous retrouve, Benoît Ferrand, en Guyane. Clap de fin pour la fusée Vega, après avoir rempli avec succès son ultime mission.
Elle s'est envolée de Kourou hier soir à 22h50 locale. Elle a placé sur son orbite le satellite qu'elle transportait. Tout va bien donc. Place maintenant à la nouvelle génération Vega C, comme l'explique le patron d'Ariane Espace, Stéphane Israël, au micro de Ludmilla Lewis.
C'était la 22e fois que nous lancions le lanceur Vega. Nous le faisions pour un satellite très important pour l'Europe, Sentinelle 2C. Sentinelle 2C fait partie d'un très grand programme européen qui s'appelle Copernicus, qui est dédié à l'environnement et à la protection de l'environnement. Et la mission s'est parfaitement déroulée. Le satellite est sur son orbite. Nous avons reçu le signal. Donc c'est une très bonne soirée pour Ariane Espace et pour les fusées européennes. Les satellites Sentinelle, c'est toute une constellation. Et effectivement, 2C va prendre la place d'un autre satellite. Et d'ailleurs, on va aussi lancer Sentinelle 1C avant la fin de l'année avec Vega C pour son retour en vol. Donc c'est une année Copernicus. On arrive effectivement à un tournant avec l'arrivée de Vega C. Et donc on a à la fois Ariane 6 qui a volé avec succès le 9 juillet, le dernier Vega qui s'est bien passé, Vega C qui va se passer d'ici la fin de l'année. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les lanceurs Ariane et Vega sont de retour. C'est très, très important pour l'autonomie d'accès de l'Europe à l'espace.
En Guadeloupe, le ton monte entre le syndicat mixte de gestion et d'assainissement de l'eau et l'association Balance ton SIAG. Le SIAG, c'est l'ancienne appellation de la structure. Pour le président de l'association, Christophe Lejeune, les sempiternelles excuses ou explications avancées par le nouveau syndicat ne tiennent pas ou ne tiennent plus la route. Écoutez-le au micro de Peggy Robert.
L'État vient de mettre 300 millions sur 4 ans pour financer des travaux et des aménagements. On a du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à commander par avance suffisamment de filtres à charbon pour alimenter, par exemple, l'usine de Capesterre-Belo, qui connaît des problèmes actuellement, suffisamment à l'avance pour que quand on détecte un problème de chlordécone, on ne soit pas obligé d'attendre l'arrivée du charbon. Il devrait y avoir quand même des possibilités de stockage quelque part pour anticiper tout ça. En ce qui concerne la turbidité, moi je veux bien que, évidemment, quand il pleut, l'eau devient sale, mais là, il y a eu encore un communiqué hier après-midi à propos de Sainte-Rose qui nous disait suite aux fortes pluies du week-end, l'eau est turbide et donc l'usine est arrêtée et l'eau n'est pas potable. Hier à Sainte-Rose, il est tombé combien? 20-30 mm d'eau sur le dernier épisode. Pour moi, c'est limite se moquer des usagers que de dire qu'une usine n'est pas capable de traiter de l'eau avec ces quantités d'eau tombées. Donc là aussi, on s'interroge pour savoir si les problèmes sont liés uniquement aux événements extérieurs ou s'il y a une cause interne au fonctionnement du syndicat.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand.
RFI à Cayenne, 98.7 FM.
RFI Midi, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission était réalisée ce jeudi par Yann Eligouin. Il est quasiment 13h30 en temps universel. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour Deux Vives Voix avec cette question: pourquoi apprendre le français aujourd'hui? Très bonne journée à tous, à notre écoute.
RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Un foyer européen possède en moyenne 3000 objets dont un tiers ne sont jamais utilisés. Mais les crises économiques et écologiques freinent cette surconsommation avec une nouvelle obsession: faire durer les objets, entretenir et réparer, c'est le quotidien de nos invités.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.